Bonjour à tous pour cette séance consacrée à, comme les thèmes des semaines précédentes, à un thème d'actualité, celui de l'abstention. Céline Braconnier, qui est notre invitée, est maître de conférence en sciences politiques à l'université de Cergy-Pontoise et elle est actuellement responsable de la formation d'un nouvel institut d'études politiques qui sera installé à Saint-Germain-en-Laye. Si j'ai invité Céline Braconnier, c'est parce qu'elle a fait de nombreux et d'originaux travaux sur la question de l'abstention. Bien sûr, il y a des travaux sur l'abstention depuis très longtemps, et depuis même 1790, il y a eu dans des publications françaises des réflexions sur l'abstention. Mais disons, la science politique contemporaine en France a commencé à s'intéresser à partir d'un livre de Lancelot à ces questions-là dans les années 60, au moment où l'abstention n'avait pas encore connu la croissance qu'elle a connue dans les deux dernières ou trois dernières décennies. Mais le propre du travail de Céline Braconnier, qu'elle a effectué en partie avec Jean-Yves Dormagin, est de ne pas s'être limité à des enquêtes fondées simplement sur des analyses de sondages. Elle a, avec Jean-Yves Dormagin, mené une enquête qui a duré pendant 5 ans dans une cité de Seine-Saint-Denis qui s'appelle la Cité des cosmonautes pour comprendre l'abstention, en particulier des classes populaires. Abstention liée très souvent aussi au fait qu'il y a des phénomènes de mal-inscription ou de non-inscription sur les listes électorales. Et ben, nous en débattrons tout à l'heure, mais l'intérêt particulier de son analyse repose donc sur cette méthode très, très lourde d'une enquête qui a mené à interviewer individuellement ou aussi en groupe beaucoup de personnes pour comprendre, sur le fond, l'abstention peut-être dans des termes que je crois profondément renouvelés par rapport à ce qu'avaient été les analyses traditionnelles de l'abstention dans les milieux de la science politique française. À côté de ce livre, dont vous trouverez les références sur le site du collège, elle a également publié une enquête, une réflexion procédant du même matériau au Centre d'analyse stratégique, qui a pour titre « Non inscrit, mal inscrit, abstentionniste », parce que son but était justement de comprendre la relation entre ces trois catégories-là. Et elle a soutenu récemment une HDR sur le titre « Comprendre les comportements électoraux par les approches environnementales », qui essaie de comprendre les comportements électoraux à partir, je dirais, des conditions sociales générales d'inscription des individus. Et donc, rompant là d'une certaine façon avec tout ce qui a été le mouvement de la science politique depuis une quinzaine d'années, c'est de s'interroger à l'électeur stratège, c'est-à-dire l'individu électeur. Et là, de prendre, je dirais, le membre d'une communauté sociale comme point de référence. Je signale aussi un article très intéressant qui a été publié récemment dans la revue de Sciences Politiques sur le thème « Le vote des cités est-il structuré par un clivage ethnique ?» pour essayer d'analyser les conditions dans lesquelles il y avait une forme de vote identitaire, si je puis dire, qui se mettait en place, renouant là aussi d'une certaine façon, non pas avec la science politique la plus récente, mais avec une science politique parmi les plus anciennes, puisque c'était une des grandes thématiques d'André Siegfried, que de réfléchir au vote identitaire. Donc je crois que ce livre et les travaux qui ont été menés par Céline Braconnier sont particulièrement pertinents pour réfléchir et comprendre peut-être de façon renouvelée et approfondie cette question qui est une question d'actualité brûlante aujourd'hui, pas simplement en France, bien sûr, je pense que nous aurons l'occasion dans la discussion d'aborder cette question-là, ce rapport de l'abstention, ou ce rapport comparatif de l'abstention dans les différentes démocraties contemporaines, et peut-être aussi dans la discussion d'aborder un certain nombre de points comparatifs en termes historiques sur cette question de l'abstention. Eh bien, merci d'avoir accepté cette invitation, et donc je vous laisse la parole.
Je vous remercie beaucoup de m'accueillir ici. Donc je vais effectivement essayer de vous parler des logiques de la démobilisation électorale contemporaine en m'appuyant en partie sur les travaux que j'ai menés avec mon collègue et ami Jean-Yves Dormagen dans la cité des cosmonautes, travaux qui se poursuivent en réalité, hein, qui ont commencé en 2002, mais qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui, puisqu'on s'est aperçu que plus on s'installait dans ce quartier, mieux on comprenait ce qui s'y passait en matière de comportement électoral. Et donc on a fait le pari de demeurer sur place le plus longtemps possible, en se disant qu'on continuerait d'accumuler des données et de comprendre mieux les comportements électoraux dans ce type de quartier populaire. Donc, je m'appuierai en partie sur ces données très, très localisées, sur d'autres que nous avons accumulées depuis dans d'autres quartiers, notamment dans des quartiers beaucoup plus privilégiés, hein, de façon à partir d'approches comparatives à avoir des données permettant d'éclairer davantage les spécificités des comportements électoraux dans ces quartiers populaires et de voir ce qui, au contraire, relevait de logiques, de dynamiques plus générales, plus diffusées dans l'espace social. Et puis, je m'appuierai également sur les données d'une grande qualité accumulées par l'INSEE depuis des années en matière de participation, qui sont beaucoup trop peu utilisées et qui reposent sur l'analyse d'un échantillon de 40 000 inscrits dont les trajectoires électorales sont reconstituées à partir des listes d'émargement à l'issue de chaque scrutin. Et donc, on a là des données extrêmement solides, hein, sur les pratiques électorales d'abstention et de participation. Et ces données sont croisées, puisque seul l'INSEE en France en a la capacité à l'échelle nationale, avec les données du recensement, ce qui nous permet de raisonner là encore sur des catégories sociales assez précises et d'interroger les spécificités des comportements électoraux en fonction des groupes sociaux, des catégories d'âge, etc. Alors, voilà, je vais essayer de replacer un peu des données qu'avec Jean-Yves nous avons accumulées à l'occasion de nos enquêtes de terrain, dans un contexte plus large que l'on dessine notamment grâce aux données de l'INSEE. Et il va s'agir d'essayer de comprendre quels sont les facteurs explicatifs de cette abstention dont la hausse constitue aujourd'hui l'un des éléments particuliers à notre période au cours des trois dernières décennies. C'est l'une des grandes évolutions enregistrées en matière de comportements électoraux que cette hausse de l'abstention, que l'on enregistre dans d'autres pays, bien sûr, dans pratiquement toutes les démocraties occidentales, avec des rythmes qui se recoupent pas exactement, avec aussi une importance, hein, qui varie, mais qui est d'autant plus remarquable en France qu'on a longtemps beaucoup voté dans notre pays et qu'on a longtemps beaucoup voté notamment dans les milieux populaires, ce qui n'était pas le cas de bien d'autres démocraties occidentales. Donc la hausse de l'abstention qu'on enregistre en France interpelle d'autant plus aujourd'hui. Il est vrai que l'abstention est étudiée depuis longtemps, mais elle a été peu étudiée par comparaison avec d'autres comportements électoraux. Le livre de Lancelot fait encore référence aujourd'hui, or c'est un livre ancien, et justement parce qu'on a longtemps beaucoup voté, bien finalement l'abstention n'a pas constitué un objet ni politique ni scientifique très, très attirant. Et il n'y a que depuis quelques années, finalement, que l'on est mis dans la situation de chercher à comprendre ce qui se passe et que donc les enquêtes et les études se multiplient avec des résultats qui ne sont pas toujours convergents, j'insisterai là-dessus, puisqu'il n'y a pas d'accord dans notre communauté scientifique sur les facteurs explicatifs de l'abstention, avec des désaccords qui sont en partie explicables, j'y reviendrai, par des problèmes de méthode, des utilisations de méthodes, la mise en œuvre de méthodes très, très différentes. Alors, là, le basculement dans un cycle de basse mobilisation électorale, on le repère depuis environ trois décennies et il affecte absolument tous les scrutins, sauf l'élection présidentielle. Et c'est une exception notable, évidemment, sur laquelle je reviendrai longuement. hein, parce que c'est pas la même chose d'enregistrer une hausse de l'abstention qui affecte la totalité des scrutins que d'expliquer une dynamique qui, à côté de la hausse de l'abstention, enregistre aussi encore de la participation massive. Bon, mais ce sur quoi on va commencer à s'attarder, c'est cette hausse de l'abstention qui affecte tous les scrutins, pas dans les mêmes proportions, et qui affecte en particulier en France, mais aussi dans les autres démocraties européennes notamment, les élections législatives. Alors c'est une élection qui est intéressante parce que on peut avoir grâce à elle une approche un petit peu longitudinale pour se rendre compte un peu de l'ampleur du changement que l'on enregistre aujourd'hui. Et puis, si on gomme, évidemment, donc ça, c'est pas très respectueux de tous les moments historiques, mais si on gomme les petits pics de participation et les pics d'abstention, on peut considérer que, en gros, depuis le début de la Troisième République jusqu'au début des années 80, hein, je gomme toutes les aspérités historiques, mais en gros, en moyenne, on est dans un taux d'abstention pour cette élection structurante de notre vie politique qui tourne autour de 20%. Donc longtemps, il y a eu environ 20% d'abstention pour l'élection législative en France. Aujourd'hui, on est depuis 2-3 législatives, on a une abstention qui avoisine les 40%, donc qui a doublé en quelques années. Et cette hausse donc de l'abstention est tout à fait significative. Aujourd'hui, par exemple, on vote moins pour les législatives en France que pour les municipales, alors que cette élection municipale, qui a longtemps été très très mobilisatrice, enregistre aussi un record historique d'abstention. En gros, la séquence électorale qui s'est déroulée depuis les présidentielles de 2007, elle est très intéressante en ce que nous n'avons cessé d'enregistrer des records historiques successifs d'abstention pour chaque type de scrutin. On s'est jamais autant abstenu pour une législative que pour la dernière législative. On s'est jamais autant abstenu pour une municipale que les municipales de 2008. Pareil pour les européennes en 2009, pour les régionales de 2010. Donc on est face à un phénomène qui est généralisé, exception faite encore une fois de la présidentielle, pour lesquelles les données sont un petit peu contradictoires, puisque en 2002, on a cru, lors du premier tour, on a approché les 30% d'abstention. C'était la première fois depuis 1965 qu'on enregistrait une abstention aussi élevée pour une présidentielle. On a presque atteint les 30% d'abstention lors du premier tour de 2002. Donc, à ce moment-là, j'étais avec Jean-Yves au Cosmonaute et on se disait que c'était une dynamique abstentionniste qui allait affecter la totalité des scrutins. En réalité, c'est plus compliqué ce qui s'est passé, puisque il y a eu une très forte participation au deuxième tour de 2002 qui s'explique par la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour et l'entreprise généralisée de mobilisation qui a affecté notre pays entre les deux tours de cette présidentielle. Tous les médias, tout le monde associatif a relayé cet appel à la mobilisation qui a été massivement suivi. Mais la remobilisation présidentielle, on l'a aussi enregistrée en 2007 avec des taux de participation absolument exceptionnels. Et donc, ce phénomène-là complique un peu l'analyse du processus de participation, puisqu'il nous amène à considérer qu'en ces temps où on s'abstient de plus en plus, on peut quand même encore se mobiliser très massivement à l'occasion des présidentielles. Mais en gros, donc, aujourd'hui, l'abstention aux législatives est le double de ce qu'elle était traditionnellement dans notre pays. Et depuis deux décennies, tous les scrutins locaux et le scrutin européen ont perdu, en gros, 10 points de participation. Alors, ce qui, donc, je vous parlais de l'exception des présidentielles. Voilà, on a les chiffres précis de la participation au cours notamment de la dernière séquence électorale, et on mesure bien l'ampleur du décalage entre l'essentiel des scrutins où on vote très peu et puis ces présidentielles, ces trois derniers tours des présidentielles qui ont massivement mobilisé. Et il faudra faire appel à des facteurs explicatifs particulier pour rendre compte de cette dynamique en quelque sorte contradictoire d'abstention très forte et de participation très forte. En 2007, c'était tout à fait étonnant. On a battu pour les deux tours des présidentielles un record historique de participation et un mois après, pour les législatives, on battait un record historique d'abstention pour les législatives, à un mois d'écart. Donc ce sont des dynamiques qui sont en apparence contradictoires. En réalité, les données de l'INSEE montrent qu'elles ne sont qu'en apparence contradictoires, puisque lorsqu'on regarde la participation à l'échelle individuelle, on s'aperçoit que cette hausse de l'abstention qu'on enregistre en France depuis trois décennies ne dissimule pas l'éloignement d'une catégorie de la population du vote, la mise à l'écart du vote, la rupture avec le vote d'une catégorie de la population. Bien plus que cela, qui existe, hein, j'y reviendrai, mais qui ne se mesure pas vraiment dans les chiffres officiels de la participation, qui se mesure lorsque l'on s'intéresse à l'inscription, hein, dans la phase de l'inscription, qui est la phase la plus exclusive socialement de tout le processus de participation électorale. En dehors de l'inscription, en réalité, la hausse de l'abstention telle qu'elle apparaît dans les chiffres officiels ne dissimule pas un éloignement, une rupture, disons, avec le vote d'une catégorie de la population qui serait de plus en plus importante, mais plutôt une diffusion, alors là, de plus en plus forte, du comportement d'intermittence électorale. Il n'y a pas de rupture, hein, on vote de temps en temps, au présidentiel notamment, mais on vote de moins en moins. Donc, ça, les données de l'INSEE sont absolument claires là-dessus. Derrière cette hausse de l'abstention qu'on enregistre, en réalité, ce qu'on a, c'est une diffusion dans notre pays des comportements d'intermittence électorale. En gros, aujourd'hui, et depuis le milieu des années 90, les chiffres, vous allez le voir, ne varient que de très peu, ce sont à peu près la moitié des inscrits qui votent à tous les tours de scrutin. Dès lors qu'on prend une échelle de référence temporelle assez petite. Là, vous avez un exemple qui est pris sur trois élections, les deux tours des présidentielles, les deux tours des municipales et les deux tours des législatives. Donc, sur deux ans, on a une petite moitié, 43% des inscrits qui ont voté aux six tours de scrutin, une un peu plus grosse moitié, qui a voté uniquement de temps en temps, alors que l'abstention constante a affecté un peu moins de 10% des inscrits. Quelles que soient les années qu'on prend pour référence, on retrouve ce même type de proportion lors des présidentielles et législatives de 2002. C'est encore une petite moitié, un peu moins de la moitié des inscrits qui ont voté aux quatre tours de scrutin. Un peu plus d'inscrits se sont abstenus à l'occasion des quatre tours, mais ce qui frappe, c'est l'importance du comportement d'intermittence électorale. Et si l'on prend les chiffres de 2007, qui proviennent toujours des données INSEE, on se retrouve à peu près dans les mêmes proportions. Une moitié d'inscrits a voté aux quatre tours, un peu moins de 10% n'a pas voté, et tout le reste ont voté de temps en temps. Alors, quelle explication donner à ce phénomène de la participation de plus en plus intermittente ? Le facteur explicatif dominant, le plus diffusé, c'est un facteur politique. L'explication politique de l'abstention, et c'est une des raisons qui, avec Jean-Yves Dormagen, nous a poussé à entamer des analyses électorales de terrain, ce qu'on faisait ce qu'on faisait en France il y a très longtemps, mais ce qu'on avait depuis quelques décennies abandonné au profit d'études par sondage, c'est cette explication politique de l'abstention. Voilà la thèse qui, encore aujourd'hui, hein, est la plus diffusée, notamment en provenance du CEVIPOF, donc du Centre d'études de la vie politique française de Sciences Po Paris. C'est le fait que l'abstention, l'augmentation de l'abstention, en réalité serait observable dans l'ensemble de l'espace social et qu'elle ne constituerait pas un problème pour notre démocratie. Elle serait même plutôt un indicateur de maturité politique parce qu'elle s'expliquerait en partie par la démocratisation scolaire. En gros, les gens aujourd'hui s'abstiendraient davantage, seraient plus intermittents parce que grâce à l'école, ils auraient acquis une sorte de capacité à résister à l'injonction civique et à dire leur refus de l'offre électorale le fait de ne pas se rendre aux urnes. Donc, en quelque sorte, l'abstention ne serait pas un indicateur d'exclusion sociale, ne serait plus déterminée socialement, mais elle s'expliquerait pour des raisons politiques. Ça serait même une forme, parmi d'autres aujourd'hui, d'expression politique. Que de ne pas aller voter, ça serait une manière de dire finalement les professionnels de la politique ne nous satisfont pas, l'offre électorale ne nous satisfait pas, et donc nous manifestons notre contestation, notre colère par le fait de bouder les urnes. Alors, cette explication, elle nous paraissait d'autant plus étonnante, qui commençait à circuler au tournant des années 2000 et qui, encore une fois aujourd'hui, est la plus répandue, paraissait d'autant plus étonnante que lorsqu'on regarde, il suffit de regarder à la suite d'un scrutin la répartition géographique des niveaux de participation pour se rendre compte quand même que les records d'abstention à partir du milieu des années 90, on les trouve plutôt dans les communes, même les départements les plus défavorisés et pas vraiment dans les centres-villes privilégiés. Et donc, expliquer que la hausse de l'abstention en réalité est un signe de maturité démocratique, un effet de la démocratisation scolaire et qu'on la retrouve dans tous les espaces sociaux, que c'est un comportement qui se diffuse partout, ça paraissait pas vraiment en accord avec la réalité des chiffres qu'on est capable de collecter grâce aux journaux le lendemain d'une élection. Mais ça suffit pas d'avoir quelques chiffres pour contrer une explication, pour proposer une explication alternative. Alors, on a trouvé, en allant aux cosmonautes et puis en étendant nos terrains d'enquête depuis avec Jean-Yves Dormagin, puis avec d'autres chercheurs aujourd'hui, tout un tas d'explications alternatives que je vais essayer de vous proposer aujourd'hui. Mais je voudrais commencer par rendre compte des raisons pour lesquelles on a pu, depuis Sciences Po Paris, diffuser l'idée que l'abstention n'était plus aujourd'hui socialement déterminée et qu'elle s'expliquait par des facteurs politiques et qu'elle pouvait être un signe de maturité démocratique. En réalité, ces explications-là sont tout simplement liées aux données sur lesquels s'appuient les chercheurs de Sciences Po Paris pour raisonner sur la participation. Et ces données, ce sont des données de sondage. Alors, ce sont des sondages améliorés, parce qu'à Sciences Po, on a les moyens de faire des sondages de qualité, notamment des sondages panélisés, qui consistent à interroger la même population sur plusieurs vagues pour mesurer notamment les évolutions des intentions de vote et des intentions de participer. Mais enfin, on s'appuie pour raisonner sur la participation sur des données de sondage, ce qui veut dire que l'on étudie la participation à partir d'intentions de participation ou à partir, dans tous les cas, de déclarations de participation. Or, que trouve-t-on lorsqu'on étudie la participation à partir de déclarations ? Regardez les données de sondage, je m'appuie sur l'exemple de 2002 et je compare les données de sondage sur la participation du panel électoral français, donc qui proviennent du CEVIPOF, avec les données qui ont été produites quelques mois plus tard par l'INSEE à partir de l'échantillon dont je parlais tout à l'heure, donc d'individus dont la participation est étudiée à partir des listes d'émargement. Donc là, pour les données INSEE, on a des données solides. Hein, les listes d'émargement, les gens ont signé, on est sûr qu'ils ont participé. Alors que dans les données de sondage, on s'appuie sur des données déclarées, donc les gens ont dit « oui, oui, je suis sûr de participer » ou « oui, oui, j'ai participé, bien sûr, j'ai participé ». Quand on est dans les données de sondage, on s'aperçoit qu'effectivement, regardez la participation des ouvriers et comparez-la avec celle des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Les ouvriers, de façon quand même assez étonnante, auraient participé lors des 4 tours de 2002 à raison de 63%, c'est-à-dire 2 points de plus que les cadres et professions intellectuelles supérieures. Alors, ces données-là sont extrêmement étonnantes quand on connaît un petit peu la sociologie électorale classique, puisque la sociologie, puis pas seulement la sociologie électorale, la sociologie politique, la sociologie des comportements politiques, puisque quand même, traditionnellement, le niveau de participation politique est lié à l'intérêt manifesté par les individus pour la politique. Cet intérêt est lui-même corrélé très très fortement au niveau de diplôme. Et en général, hein, on trouve classiquement plus de participation dans les catégories supérieures que dans les catégories ouvrières. C'était vrai même à l'époque où en France, on votait beaucoup, y compris dans les milieux populaires. Il y a toujours eu un décalage au profit d'un vote plus important dans les catégories plus diplômées. Donc effectivement, que trouve-t-on à partir des données électorales du panel électoral français, une participation ouvrière qui est plus importante que la participation des cadres et professions intellectuelles supérieures. Or, lors de ces 4 tours, hein, on a eu un deuxième tour de présidentielle en 2002 qui était très très mobilisateur, mais on a eu 3 autres tours qui enregistraient des records historiques d'abstention. Eh bien, il se trouve que depuis Sciences Po, on considère qu'à l'occasion de ce scrutin, les ouvriers ont davantage voté que les cadres. Donc vous comprenez comment, en partant de données comme ça, on peut dire qu'effectivement, l'abstention est un comportement qui n'est plus déterminé socialement. C'est une forme d'expression politique, d'expression contestataire qui se diffuse dans l'ensemble de l'espace social. Le problème, c'est que quand on regarde les listes d'émargement, on n'obtient pas du tout les mêmes résultats et qu'on obtient des données plutôt conforme hein, à ce qu'on connaissait, c'est-à-dire une participation des ouvriers qui est bien moins importante que celle des cadres et professions libérales, hein, de 20 points inférieurs, ce qui nous donne hein, des choses complètement différentes et ce qui va nous mener à des facteurs explicatifs bien distincts. Puisque dans ce cas-là, on a bien une différence de participation, par CSP, qui est très marquée et qui nous incite à considérer qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, on y reviendra, on a des facteurs sociaux de l'abstention qui continuent de jouer et qui continuent d'être explicatifs. Alors pourquoi ces données de sondage donnent-elles ces résultats-là ? Parce qu'il y a un biais déclaratif, dont on connaît l'existence depuis très longtemps, et c'est même ce qui nous a étonnés avec Jean-Yves et ce qui nous a donné envie d'aller faire du terrain pour comprendre les comportements électoraux, c'est qu'on lisait dans pas mal d'articles, c'est vrai qu'il y a un problème dans la déclaration de l'abstention, mais qu'on continuait à travailler sur ces données-là, qui sont pourtant fragiles. Alors, comment s'explique ce biais déclaratif ? Bon, ben, l'abstention, comme certains votes, comme le vote Front National, hein, par exemple, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est un comportement qui est globalement socialement stigmatisé. Hein, et la norme civique, qui est encore très prégnante dans notre société, requiert de tout citoyen qu'il s'engage un minimum dans la vie publique. Et ce minimum, c'est l'acte de vote hein, qui le symbolise et qui l'incarne le mieux. Donc, dès lors qu'on a une vie sociale minimale, on est un petit peu sensible à cette norme civique et on va avoir du mal, devant un enquêteur ou au téléphone, à reconnaître hein, que l'on s'abstient. Et ça, le biais déclaratif sur l'abstention, il est souvent très très important, il n'est pas propre à la France, on a exactement le même problème de biais dans les pays anglo-saxons, et on le mesure quel que soit le moment où on interroge les gens. Ah, c'est-à-dire qu'on le mesure dans les intentions de participer. Je lisais encore dans Le Monde hier soir Brice Teinturier expliquait que finalement le flottement dans les intentions de vote ne profitait pas à l'abstention puisque 83% des gens déclaraient avoir l'intention d'aller voter. Je me disais, on continue de faire comme si ces intentions de participer étaient solides, alors qu'on sait très bien qu'elles ne le sont pas. Donc, on mesure en intention de participer, il y a souvent des écarts, mais considérables, avec la réalité de la participation, mais on pourrait se dire, finalement, quand on interroge les gens avant, ils ne sont pas sûrs, ils peuvent changer d'avis, etc. Oui, le problème, c'est qu'on a exactement les mêmes biais quand on interroge les gens après. Donc après, quand on interroge les gens le lendemain du vote pour savoir s'ils ont voté et que sur des échantillons nationaux, on a 25 points d'écart entre les déclarations de participation et la participation qu'on enregistre, effectivement, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc, les gens n'osent pas dire qu'ils ne vont pas voter parce que la norme civique est là et qu'on ne veut pas perdre la face devant un enquêteur. Et deuxièmement, il y a un deuxième facteur explicatif de ce biais déclaratif qui est peut-être plus important, en tout cas quand on travaille sur les catégories populaires, c'est que la faible politisation, le peu d'intérêt pour la politique se traduit par une très faible connaissance qu'ont les individus de leur propre parcours de participation. Quand vous êtes peu politisé, que vous hésitez à voter, que on y reviendra, vous y allez parce que vous êtes entraîné par un proche, mais sans grande conviction, sans être sûr que ça va changer grand-chose, ou même en étant sûr que ça changera rien, dans ces cas-là, vous votez, mais quelques mois plus tard, vous ne vous souvenez pas que vous avez voté. Et cette méconnaissance de son propre parcours électoral se traduit par une difficulté très grande à reconstituer un parcours de vote pour quelqu'un qui est peu politisé quelques semaines après avoir voté. Et aujourd'hui, en ce moment, je suis dans un dispositif de terrain dans des quartiers populaires d'Île-de-France. On fait du porte-à-porte. Et quand on interroge les gens sur le fait qu'ils aient pu voter au cours des derniers scrutins, le seul scrutin dont ils se souviennent souvent, c'est les présidentielles. Ou alors, ce qui est souvent très, très fréquent, c'est que quand on demande aux gens s'ils votent tout le temps, ils nous disent « mais bien sûr, je vote tout le temps ». Et alors, question de contrôle, puisqu'on commence à être habitué à ces biais, on leur demande de nous citer l'élection à laquelle ils ont participé la dernière fois, et ils nous citent la présidentielle. Tout simplement parce que pour eux, ils ont tout le temps participé, parce que seule la présidentielle les a marqués, seule la présidentielle compte pour eux, donc elle existe seule. Donc les gens peuvent déclarer qu'ils votent constamment, alors qu'en réalité, sans même chercher à nous tromper, juste parce que pour eux, c'est la seule élection qui compte, ils n'ont voté qu'au présidentiel. Mais vous comprenez bien que dans un sondage où on propose aux gens de cocher la case « Êtes-vous un votant constant ? Êtes-vous un votant intermittent ? Votez-vous original ?» etc., les gens puissent voter la case « votant constant » alors qu'en réalité, ça ne rend pas compte de leur participation effective. Conclusion, pour étudier la participation, il faut s'appuyer sur les listes d'émargement. On a la chance en France de pouvoir étudier la participation en s'appuyant sur des données d'une grande solidité. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Depuis quelques années, j'ai l'occasion de discuter de dispositifs d'enquête avec des collègues, notamment en Belgique, qui ne peuvent absolument pas, qui ne sont pas dans les conditions de possibilité d'étudier le vote à partir des listes d'émargement, par exemple. Il y a plein d'autres pays où c'est très compliqué. En France, nous avons accès à ces listes d'émargement. Il suffit d'aller dans les 10 jours qui suivent l'élection dans les préfectures et de faire comme les chercheurs de l'INSEE, de relever la participation. C'est cela qu'il faut faire. Toute autre analyse de la participation est fragile. Donc, ça prend du temps, c'est très coûteux, bien sûr, c'est très chronophage, mais au moins, on s'appuie sur des données d'une grande solidité. Alors, évidemment, quand on est des chercheurs isolés, donc l'INSEE, c'est une chose, mais quand on est chercheur à l'université, on n'a pas les moyens dont disposent les chercheurs de l'INSEE. Donc, en général, qui dit analyse de la participation par les listes d'émargement, dit analyse localisée. Et c'est parce qu'on n'a pas les moyens de faire des enquêtes sur 40 000 ou 60 000 individus. Donc, avec Jean-Yves Dormagen, nous avons fait le pari, au tournant des années 2000, d'aller étudier les comportements électoraux et ceux de participation en particulier, en étudiant tout simplement les comportements dans un quartier populaire où on avait remarqué, en allant tout simplement aux archives municipales de Saint-Denis, que la participation était très élevée depuis le début des années 90. Donc on s'est dit qu'en s'installant dans le quartier et en partant des listes d'émargement, donc, que nous avons trouvé aux archives. Alors, les cosmonautes, c'est donc, Pierre-Rosan Vallon le disait tout à l'heure, une petite cité de Saint-Denis qui est en face, qui est à la limite de la Courneuve, juste en face des anciens 4000. C'est une cité donc à la périphérie de Saint-Denis. Nous avons choisi Saint-Denis notamment parce qu'on avait eu l'occasion de se rendre compte que dans les banlieues rouges, il y avait un service de conservation des archives très très au point. Et ça nous a évité d'aller courir ce qu'on fait aujourd'hui quand on travaille à partir d'autres communes, dans toutes les archives départementales, communales, même dans les greniers des mairies, dans les caves des mairies, pour trouver les listes d'émargement. Donc ça, Saint-Denis avait des archives de listes d'émargement très très complètes, ce qui nous a permis de reconstituer les trajectoires depuis le début des années 70 jusqu'à aujourd'hui, des trajectoires de vote. Et puis nous avons choisi donc le quartier le plus abstentionniste avec l'idée qu'en s'installant dans un endroit, donc en faisant un peu le contraire de ce que font les sondeurs, c'est-à-dire que les sondeurs constituent un échantillon national et appellent les gens 3 minutes pour leur poser des questions, nous avons fait le pari inverse et on s'est d'ailleurs étonné que finalement le domaine de l'analyse électorale soit pratiquement le seul où on se contente de données de sondage pour établir nos raisonnements et nos explications des comportements. Donc là, en adoptant une approche localisée de longue durée, on se donnait les moyens donc, de travailler sur la participation de façon solide à partir des listes, et puis aussi de croiser les données des listes d'émargement avec toutes celles qu'on peut cumuler quand on s'installe durablement dans un territoire, c'est-à-dire des entretiens approfondis avec des habitants, des questionnaires sortis d'urne à l'issue de chaque scrutin, des observations participantes dans les classes de l'école de la cité, des observations participantes dans les jardins publics, sur le stade de foot, etc. Donc, on y est resté très très longtemps, on y était de façon quasi permanente pendant quelques années, aujourd'hui c'est moins le cas, on revient en gros, là on y est retourné au moment de la période d'inscription sur les listes, et les gens là nous voient revenir, on fait presque partie du paysage du quartier aujourd'hui, et on fait des questionnaires sortis d'urne, on en a 21 depuis le tournant des années 2000, on continue de cumuler ce type de données avec celles des listes d'émargement. Donc c'était un vrai pari, parce que cette manière de faire ne s'était pas faite depuis longtemps, depuis en gros la diffusion en France de la méthode des sondages et l'évacuation un peu trop rapide de ces listes d'émargement auquel on revient aujourd'hui. Par ailleurs, on s'est aperçu, et ça je vous le montrerai notamment quand je parlerai de l'inscription, on s'est aperçu grâce à cette approche localisée, donc grâce en quelque sorte au maniement du microscope, que l'on s'apercevait de certains processus auxquels on ne pensait pas du tout quand on a débarqué aux cosmonautes, alors qu'ils n'apparaissent pas quand on utilise des échantillons nationaux, une approche un peu en survol. On s'est aperçu, notamment parce qu'on était sur place, que l'étape de l'inscription était une étape fondamentale du processus électoral et que l'inscription, notamment le fait de ne pas être inscrit au bon bureau de vote, était un facteur explicatif très très important de l'abstention enregistrée dans les quartiers populaires. Alors, ce que nous avons trouvé aux cosmonautes, ce sont des données qui rentrent en cohérence avec celles publiées par l'INSEE depuis quelques années, malheureusement sous la forme de petits feuillets, INSEE première de 2 pages, alors que l'INSEE possède des données d'une très très grande richesse en matière électorale. Donc, à partir des 2 pages qui sont publiées régulièrement, on sait quand même un certain nombre de choses, suffisamment en tout cas pour mettre en doute les explications du CVPOF en matière de participation électorale. On sait notamment que l'abstention est très inégalement diffusée. L'abstention, et donc les formes que prend l'abstention aujourd'hui, c'est-à-dire une participation de plus en plus intermittente. Il faut avoir ça dans la tête. En réalité, aujourd'hui, si on met à part la phase de l'inscription que j'évoquerai en dernier, les abstentionnistes, le plus souvent, sont aussi ceux qui participent aux présidentielles. Donc c'est un petit peu plus compliqué que si les abstentionnistes avaient été des abstentionnistes constants tout le temps. Alors ce qu'on s'aperçoit grâce aux données de l'INSEE et qu'on retrouve, vous verrez juste après, amplifié dans les quartiers populaires, c'est une très inégale répartition de l'abstention en fonction des catégories socio-démographiques. Alors une des inégalités très marquées, une des différences très marquées est liée à l'âge. On sait c'était déjà marqué il y a une trentaine d'années. Ça s'est accentué depuis. On n'est pas encore très, très solide dans les facteurs explicatifs, mais on constate, en tout cas, que les jeunes votent beaucoup moins que les autres catégories d'âge. Si on prend les catégories les plus éloignées en matière de participation, on a les 18-24 ans qui ne votent en réalité dans des proportions importantes qu'aux élections présidentielles. Dès que l'intensité du scrutin diminue, dès que l'abstention augmente au niveau national, vous pouvez être sûr que les jeunes sont sous-représentés, que les jeunes sont les premiers à se démobiliser. Ils sont bien représentés lors des présidentielles à forte participation, comme celle de 2007, regardez. Ils sont 12,9% à s'être abstenus. Alors qu'en réalité, la catégorie qui s'est le moins abstenue, comme toujours, c'est celle des 55-64 ans, la plus participationniste. Et donc, ça fait donc 6 points d'écart, en gros, entre les catégories d'âge en matière de participation, ce qui est très peu. Donc, au présidentiel de 2007, alors qu'on a eu une participation de 84%, une explosion de participation, les jeunes ont parfaitement participé. En revanche, regardez les municipales de 2008, où on a enregistré un record d'abstention pour une élection de ce type. Que remarque-t-on ? 53,9% des jeunes de 18-24 ans se sont abstenus, alors que la tranche des 55-64 ans a continué de voter massivement. Et là, on a plus de 35 points d'écart de participation entre ces deux catégories d'âge. Les jeunes, donc, votent moins, et notamment les très jeunes, que les catégories plus âgées. On retrouve, évidemment, quelle que soit la manière dont on s'y prend, quelle que soit l'observation que l'on met en œuvre, on retrouve ces données-là. Là, par exemple, pour les présidentielles et les législatives de 2007, j'ai reconstitué la courbe du vote constant et la courbe du vote intermittent. Et on s'aperçoit que la courbe du vote constant qui est en bleu, excusez-moi, je m'aperçois que je n'ai pas traduit, mais bon, la courbe du vote constant augmente régulièrement avec l'âge et il y a un magnifique croisement avec le vote intermittent qui, lui, diminue avec l'âge. Donc, on retrouve ces données-là dans les courbes de l'intermittence électorale, ceux qui nourrissent l'abstention contemporaine, ceux qui participent de moins en moins, même s'ils participent toujours de temps en temps, eh bien, ce sont les jeunes, et notamment les 18-24 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a comme facteur explicatif ? On a un facteur explicatif traditionnel qui est lié à un effet d'âge, qui renvoie à des processus de socialisation au cours de la vie. En gros, 18-24 ans, c'est avant l'entrée dans la vie professionnelle, et on considère traditionnellement que l'entrée dans la vie professionnelle marque un tournant dans le processus d'engagement dans la vie publique, comme si, quelque part, en entrant dans la vie professionnelle, la norme civique pesait davantage sur l'adulte. De la même manière, la composition d'une famille, le fait de quitter le domicile parental, tout ça survient à peu près dans les mêmes moments et contribue à une augmentation de l'engagement dans la vie publique. La vie professionnelle, par exemple, en suivant notamment des jeunes des cosmonautes qu'on a rencontrés, ils avaient 18 ans en 2002, on continue de faire des entretiens régulièrement avec eux. Et donc ça, les phénomènes de politisation liés à l'entrée dans la vie professionnelle, on les a mesurés très, très concrètement. On a vu des jeunes se transformer avec une entrée dans la vie active, notamment dans la fonction publique municipale, tout simplement parce que quand vous entrez dans la fonction publique municipale, eh bien, vous êtes en contact avec des syndiqués, lycée, vous êtes en contact avec des collègues qui sont un petit peu plus politisés que vous, vous avez des discussions politiques de temps en temps, et ça, ça suffit hein, parfois à expliquer une participation plus importante. Donc on a un effet d'âge qui s'explique par hein, des formes d'intégration successives dans la vie sociale et qui se traduisent par une participation plus importante à l'âge adulte qui continue de croître hein, avec l'âge jusqu'à aujourd'hui presque 60-70 ans et puis qui diminue après. Et ça, la moindre participation des personnes plus âgées, ça s'explique par les difficultés de déplacement qui commencent à s'observer à partir de cet âge-là. Et puis aussi, on y reviendra par des problèmes de malinscription qui affectent de façon particulière des personnes âgées qui n'habitent plus là où ils sont inscrits. Alors, deuxième facteur explicatif hein, de la moindre participation des jeunes, ça serait là un effet plus de génération et qui pourrait se révéler catastrophique hein, pour l'avenir si cet effet était avéré. Renvoie au fait que les jeunes culpabilisent beaucoup moins de s'abstenir que les personnes âgées aujourd'hui. Quand on fait des enquêtes qualitatives, on s'aperçoit que le comportement abstentionniste chez les jeunes est de plus en plus assumé et que un des facteurs explicatifs de la participation quand on est plus âgé, qui est le devoir civique, l'idée que finalement, même quand on n'y croit plus, même quand on s'y intéresse plus, même quand on est désenchanté, on continue d'aller voter parce qu'on a des grands-parents qui se sont battus, dans certains pays, on n'a pas encore le droit de vote, etc. Eh bien, c'est un facteur qui fonctionne pour les générations les plus âgées, mais qui ne semble plus suffisant à faire venir aux urnes les plus jeunes. Alors ça, c'est la moindre sensibilité à l'injonction civique hein, des jeunes, c'est un phénomène que l'on observe dans beaucoup de pays européens, avec une exception notable qui, pour l'instant, n'est pas expliquée, qui est celle du Danemark. J'ai assisté à des présentations de travaux en cours hein, sur le Danemark, qui est un des pays où effectivement l'abstention, notamment en milieu populaire, a le moins augmenté au cours des dernières années. Et il se trouve que c'est le pays aussi où les jeunes paraissent hein, le plus sensibles au devoir civique. Alors, il faut aller voir ce qui se passe sans doute à l'école. En tout cas, on ne sait pas. Hein, ce sont des travaux en cours, mais qu'on regarde de près pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais il se trouve que les jeunes hein, générations, qui disent hein, ne pas s'intéresser à la politique, leur non-intérêt pour la politique n'est pas compensé hein, par le sentiment qu'il faut aller voter absolument, alors qu'il peut l'être chez les personnes âgées. Encore une fois, hein, on a un intérêt moindre et puis un désenchantement qui est aussi fort chez les personnes âgées aujourd'hui dans les quartiers populaires vis-à-vis de la politique que chez les jeunes. Simplement, il ne se traduit pas forcément par de l'abstention ou par une participation plus intermittente parce que les gens, quoi qu'il arrive, vont voter hein, avec cette idée qu'il y a un devoir électoral qui s'impose à eux. Alors, il y a des inégalités dans la participation en fonction des catégories d'âge. Il y a évidemment des inégalités sociales. Les prédispositions à participer à une élection sont très inégalement réparties dans l'espace social. Et quel que soit l'indicateur hein, sur lequel on s'arrête, on retrouve exactement les mêmes données. C'est-à-dire que plus on est fragile économiquement, plus on est au chômage, plus on est précaire dans son emploi, moins on vote. Moins on est diplômé, moins on vote. Si on s'attarde sur les diplômes, hein, par exemple, et qu'on arrive à faire des distinctions dans certaines études entre les filières suivies, entre les niveaux d'études, des distinctions entre les grandes écoles, les universités, ça va toujours dans le même sens. Hein. Plus on a un diplôme universitaire de niveau élevé, plus on a un parcours qui est passé par une grande école et plus on a de chances de participer et de participer plus souvent aux élections. Donc ça, ce sont des données qui étaient déjà vraies, hein, encore une fois, il y a 30 ans, mais qui se sont accentuées. Avec le temps, tout simplement parce que j'y reviendrai tout à l'heure, à partir des mêmes prédispositions à l'abstention chez les catégories moins diplômées, on a moins aujourd'hui d'éléments de compensation de ce niveau de diplôme sur la participation. C'est-à-dire que le faible niveau de diplôme prédispose à l'abstention. De façon générale. C'était déjà le cas il y a 30 ans, simplement il y a 30 ans, il y avait des facteurs qui compensaient ce faible niveau de diplôme pour expliquer que les gens peu diplômés participaient davantage. Hein, aujourd'hui, ce sont ces éléments de compensation qui n'existent plus ou qui pèsent moins et qui laissent en quelque sorte le niveau de diplôme à l'état brut se traduire dans les comportements électoraux par une moindre participation. Donc, que montrent ces données de l'INSEE, encore une fois, très très solides, plus on est diplômé, moins on a de chances d'être votant constant, ce sont les barres rouges, et puis le taux de participation moyen pour les présidentielles et les législatives de 2002 augmente avec le niveau de diplôme. Et là, on a des données à l'échelle nationale, donc qui écrasent les différences. Vous allez voir que quand on travaille sur des bureaux de vote, et donc sur des catégories sociales beaucoup plus précises, sur des bureaux de vote homogènes socialement et très contrastés, eh bien, les écarts sont beaucoup plus importants encore. Mais là, dans un échantillon national, alors qu'on mélange pourtant présidentielle et législative, donc évidemment, le deuxième tour des présidentielles de 2002 contribue là à augmenter le niveau moyen de participation, bien sûr. Eh bien, on a quand même 20 points d'écart dans la participation entre ceux qui n'ont aucun diplôme et ceux qui sont diplômés de l'université. Je vous disais, quel que soit l'indicateur, on retrouve des données qui vont dans le même sens. Quand on prend les catégories socio-professionnelles, par exemple, à l'occasion de cette élection municipale de 2008, où on a enregistré une forte abstention pour une municipale, on s'aperçoit, par exemple, que les membres de la fonction publique s'abstiennent deux fois moins que travailleurs qui sont en intérim, que les salariés en intérim, que ceux qui sont au chômage ou que ceux qui bénéficient d'un emploi aidé. En gros, la stabilité professionnelle, l'intégration de longue durée dans un milieu professionnel, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, parce que quand on a un travail stable, on a plus de chances de rencontrer des gens politisés, de se politiser soi-même, on est plus en contact avec les syndicats, même si on l'est moins aujourd'hui qu'hier. Et alors que, évidemment, lorsqu'on est au chômage, eh bien, on ne bénéficie pas de cet effet d'entraînement à la participation qui peut être imputé à l'insertion dans un milieu professionnel stable. De façon générale, il y a le statut qui compte, et puis il y a aussi les milieux sociaux dans lesquels on évolue, qui peuvent contribuer à compenser le peu d'intérêt pour la politique dans les milieux populaires. Mais là, donc, une abstention qui, conformément aux attentes, est deux fois plus importante dans les catégories les plus fragiles par rapport à celles qui sont les plus stables. Évidemment, on reste dans des très grandes catégories. Évidemment que la catégorie de la fonction publique, ça ne veut rien dire. Il faudrait faire des différences entre les petits employés de la fonction publique et puis les fonctionnaires de catégorie A. Mais déjà, à cette échelle pourtant très, très grossière, avec ces grosses catégories, on a des données qui sont significatives. Alors, évidemment, quand au niveau d'un échantillon national, on repère ces différences de participation entre les catégories d'âge et les catégories sociales, il faut s'attendre à les retrouver de façon beaucoup plus marquée encore quand on s'intéresse à territoires qui sont socialement homogènes. Des territoires qui sont socialement homogènes, des quartiers populaires d'un côté et des quartiers privilégiés de l'autre. Alors, c'est la démarche que nous avons adoptée avec Jean-Yves Dormagen en nous rendant aux cosmonautes, donc, qui n'est pas une zone urbaine sensible, mais qui aurait pu l'être, qui a exactement les caractéristiques moyennes des zones urbaines sensibles. Vous savez que la catégorie de ZUS, c'est une catégorie administrative qui, en réalité, ne veut pas dire grand-chose, puisqu'elle rassemble des quartiers qui sont assez différenciés de certains points de vue, du point de vue du taux de chômage, par exemple, du point de vue de la présence des étrangers, etc. Les cosmonautes ne constituent pas une vue. Il aurait pu constituer une vue. C'est un quartier populaire installé à la périphérie de Paris. Eh bien, quartier populaire veut dire rassemblement dans un même territoire de populations dont toutes les caractéristiques individuelles prédisposent à l'abstention. Je vous ai dit, les jeunes votent moins que les personnes âgées, ceux qui sont plus au chômage votent moins que ceux qui ont un travail stable, ceux qui sont moins diplômés votent moins que ceux qui sont diplômés de l'université. Eh bien, aux cosmonautes, comme dans tous les quartiers populaires, on a des populations qui cumulent ces prédispositions à l'abstention. Ce sont des quartiers très jeunes. Ce sont des quartiers où le niveau de diplôme est bien inférieur à la moyenne nationale. Ce sont des quartiers où le taux de chômage, notamment des jeunes, est bien supérieur à la moyenne nationale. Et il est donc tout à fait logique que ce soit dans ces quartiers qu'on enregistre les plus forts taux d'abstention quand on enregistre des records historiques d'abstention. Hein, vous pouvez être sûr que lorsque, par exemple, on a enregistré un record d'abstention aux élections européennes en 2009, eh bien, ces records, ils étaient amplifiés très, très largement dans un quartier comme les cosmonautes. En 2009, on a voté à 25% aux cosmonautes pour les élections européennes. Donc, il est tout à fait logique, vu les caractéristiques sociodémographiques de la population des quartiers populaires, que ce soit dans ces quartiers qu'on enregistre les taux d'abstention les plus élevés quand on enregistre déjà des records d'abstention au niveau national. Et alors là, vous avez la courbe de la participation de 2002 à 2010. Donc, pour le quartier des cosmonautes qui est en vert, la participation au niveau national est en bleu. Le quartier dont la courbe est en rouge, c'est un bureau de vote du 3e arrondissement de Paris, donc dans le Haut-Marais, qui est un arrondissement qui se caractérise par sa gentrification qui est en phase terminale. Je ne sais pas si c'est pas une expression très heureuse, mais c'est celle qui me vient. Donc en phase ultime de gentrification, ce sont des populations qui sont favorisées socialement, qui ont aujourd'hui, qui disposent de ressources économiques importantes, même si ce ne sont pas les mêmes ressources que celles de la bourgeoisie du 16e arrondissement. C'est une participation qui se caractérise par son très haut niveau de diplôme. Vous verrez tout à l'heure, il y a plus de la moitié des électeurs de ce bureau-là qui ont un diplôme équivalent ou supérieur à Bac+5. Donc c'est un bureau de vote très diplômé, favorisé, avec des populations qui partagent tout de même un élément en matière de comportement électoraux avec les cosmonautes, c'est celui de voter massivement à gauche. Et c'est en ça aussi que c'est une bourgeoisie un petit peu particulière. Mais en termes de participation, la comparaison entre ce qui se passe à Saint-Denis et ce qui se passe dans le centre de Paris est intéressante. Ce sont des quartiers qui sont à une demi-heure en métro, éloignés d'une demi-heure de métro l'un de l'autre. On remarque que lors des élections présidentielles de 2007, les courbes sont toutes chevauchées. Autrement dit, on vote autant aux cosmonautes pour les présidentielles de 2007 qu'ailleurs dans Paris et qu'ailleurs en France. Autant. Une mobilisation aussi importante. En revanche, dès que l'intensité de la campagne diminue, dès qu'on vote moins ailleurs, alors les écarts de participation s'accroissent et on a jusqu'à 35 points d'écart de participation entre les cosmonautes et le centre de Paris. Et puis alors, Sergi Nord et surtout les jeux notes, je me suis un petit peu amusée, comme moi je suis à l'université de Sergi Pontoise, j'ai évidemment des élus qui m'ont contactée pour venir un petit peu leur expliquer les choses et qui m'ont demandé un peu d'intégrer des quartiers populaires de Sergi dans mes enquêtes, ce que j'ai fait avec plaisir. Et ils ont été très très étonnés, les élus, quand je leur ai montré que le quartier des Genottes, qui est un quartier qui a été complètement rénové, qui a bénéficié de la politique de rénovation urbaine, qui est un très joli quartier avec à proximité de la sortie du RER, avec plein d'espaces verts, etc., mais dont les caractéristiques sociodémographiques sont équivalente à celle des cosmonautes. Et ils ont été très, très étonnés de constater que le comportement électoral des habitants des Genotes était strictement identique à celui des habitants des cosmonautes, qui pourtant évoluent aujourd'hui dans un quartier beaucoup moins rénové, hein, disons, beaucoup plus, avec une allure beaucoup plus... beaucoup moins avenante. Donc, ils se sont rendus compte à ce moment-là que finalement les facteurs sociaux de la participation étaient tellement forts que malheureusement la politique de rénovation urbaine, c'est pas pour ça qu'il faut pas la faire bien sûr, mais n'a pas beaucoup d'effet sur les taux de participation. Alors très très logiquement aussi, quand on travaille sur les listes d'émargement de ces deux bureaux très contrastés, du Marais et de Saint-Denis, on se rend compte que les écarts remarqués au niveau national sont bien plus forts. Par exemple, on constate que dans le bureau du Marais, c'est à peu près la moitié des inscrits qui, de 2007 à 2009, sont des votants constants ou quasi constants, hein, c'est-à-dire ayant s'étant une seule fois abstenu. En revanche, c'est un tiers inscrits des cosmonautes qui constituent des votants constants ou quasi-constants, alors que, rappelez-vous, on a dit qu'en moyenne nationale, c'était un inscrit sur deux qui votait tout le temps. Eh bien, un inscrit sur deux qui vote tout le temps au niveau national, ça donne dans les quartiers populaires un tiers seulement de votants constants. De la même façon, si vous regardez les abstentionnistes constants, on s'aperçoit qu'il y a 6% d'abstentionnistes constants dans le Marais entre 2007 et 2009, le double dans le quartier des cosmonautes. Donc toutes les données, on les retrouve, mais accentuées quand on regarde ces quartiers très très contrastés socialement. Alors là, je pèse vite. Dans les quartiers qui sont dans nos dispositifs, donc aujourd'hui, on a étendu à des quartiers beaucoup plus favorisés, à des quartiers de classe moyenne, pour mener des approches comparées, on retrouve tout ce que les enquêtes de l'INSEE permettent d'établir, notamment de moins fortes prédispositions à participer dans les quartiers populaires, tout simplement parce que l'intérêt politique est bien lié au niveau de diplôme et qu'on s'intéresse moins à la politique dans le quartier des cosmonautes que dans le Marais. Alors ça, c'est pas du tout, et c'est un trait intéressant, c'est pas du tout une nouveauté. C'est pas du tout une nouveauté. Il y a notamment un livre de référence qui a été écrit par Daniel Gaxi, qui est publié, je crois, à la fin des années 70. Je crois qu'il est de 79, Le Sens Caché. Donc, à une époque où on vote beaucoup en France, y compris dans les milieux populaires. Et dans Le Sens Caché, Daniel Gaxi montre, de façon très, très convaincante, ça reste un livre encore de référence aujourd'hui, que l'intérêt pour la politique est socialement déterminé et que, finalement, malgré le mythe de l'égalité démocratique des citoyens face à la politique, on se rend compte que moins on est diplômé et moins on a de chances de suivre l'actualité politique, de la comprendre. Et ça se traduit, à l'époque, par des taux de participation qui sont un peu moins élevés que ceux des catégories plus diplômées, mais qui sont relativement égalitaires par rapport à ceux que l'on connaît aujourd'hui. Et on voit que ces éléments-là, on les retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire que, comme hier, l'intérêt pour la politique, l'intérêt déclaré pour la politique, est en gros deux fois moins important dans un quartier populaire qu'il ne l'est dans un quartier massivement habité par des diplômés. Donc ça, c'est juste à l'occasion des questionnaires sorties d'urne qu'on administre donc systématiquement dans tous les quartiers du dispositif. Donc, on accumule des données sur les caractéristiques sociodémographiques des électeurs et ça nous permet de vérifier qu'effectivement, ce très fort intérêt pour la politique dans le quartier du Marais est corrélé au niveau de diplôme, qui est aussi beaucoup plus élevé que celui qu'on enregistre dans le quartier de Saint-Denis. Alors, il se trouve que dans Le Sens Caché, Daniel Gaxi donc explique la distance très grande, donc le sens excluant en fait de la politique toute une catégorie de la population, la population la plus fragile, la moins diplômée. Mais il se trouve aussi qu'à l'époque où il écrit, ces populations-là, elles votent massivement. Et en gros, jusqu'au milieu des années 80, on va, notamment dans les quartiers populaires comme les cosmonautes, enregistrer, par exemple à l'occasion des élections législatives, des taux de participation qui sont équivalents à ceux qu'on enregistre au niveau national. Équivalents et même parfois un peu plus élevés. Mais ça, il y a des historiens pour nous dire qu'il faut faire attention, parce que notamment quand on travaille sur la participation dans les banlieues rouges, il y avait des processus de bourrage d'urnes qui peuvent à la marge expliquer que dans ces quartiers, on ait pu voter à 1, 2, 3 points, comme aux cosmonautes, de plus que la moyenne nationale. Mais ça reste un niveau de participation très, très étonnant pour nous aujourd'hui. Par exemple, le cosmonaute en 78, c'est un exemple qu'on développe avec Jean-Yves dans la démocratie de l'abstention, qui est très révélateur, je pense, d'un état de la participation dans notre histoire récente. En 1978, au cosmonaute, il y a un deuxième tour de législative avec seulement un candidat en lice, le candidat de l'Union de la gauche. Et bien, malgré cela, on a une participation, alors qu'il n'y a aucun enjeu sur l'issue du scrutin, une participation qui est de 65%. 65%. Au premier tour, on a une participation supérieure à 83%. Aujourd'hui, c'était le cas en 2002, c'était de nouveau le cas en 2007. Aujourd'hui, on a, lors des deuxièmes tours aux cosmonautes, pour les législatives, un candidat de l'UMP, une candidate en l'occurrence, et un candidat de la gauche. Eh bien, on ne parvient à faire se déplacer que 40% des électeurs, alors qu'il y a un enjeu gauche-droite. Donc, c'est vous dire tout ce qui s'est produit entre ces deux dates. Et le fait que le peu d'intérêt pour la politique, qui était déjà vrai, encore une fois, je m'appuie sur le livre de Daniel Gaxi, mais on a d'autres livres, on a par exemple le livre de Richard Hogarth ou le livre de Daniel Thompson sur la classe ouvrière anglaise, qui montrent que, de façon générale, il y a, depuis la mise en place du suffrage universel, dans les milieux populaires, une certaine méfiance à l'égard de la politique. Donc non seulement il y a moins d'intérêt, et c'est lié au parcours scolaire, mais il y a aussi du scepticisme, de la méfiance, on a peur de... Moi, j'ai travaillé sur le 19e siècle, sur des revues de café-concert qui traitent de ces questions-là, et où l'idée que les milieux populaires pourraient se faire carotter, c'est le terme qui est utilisé dans ces revues-là, par le suffrage universel, est très, très, très diffusé. Donc il y a toujours eu cette méfiance, ce scepticisme, en plus d'un moindre intérêt lié au niveau de diplôme. Eh bien, il n'empêche que aux cosmonautes, alors qu'on s'intéressait déjà moins que le reste de la population, on votait beaucoup. Et donc, c'est bien que ces facteurs-là, qui prédisposent pourtant à l'abstention, eh bien, ils renvoient à des prédispositions qui peuvent être compensées, qui peuvent être annulées par d'autres facteurs de la participation qui sont des facteurs environnementaux. Dans le modèle explicatif de la participation, je pense qu'il faut faire droit aux facteurs sociaux. Il y a des déterminants sociaux qui se traduisent par des prédispositions plus ou moins grandes en fonction des catégories de la population à s'abstenir. Dans les milieux populaires et dans les quartiers populaires en particulier, on a de très fortes prédispositions à l'abstention par leur jeunesse, par leur faible niveau de diplôme, par leur taux de chômage. Les habitants sont plus prédisposés que d'autres à s'abstenir. Autrement dit, la logique, c'est qu'ils s'abstiennent. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils aient pu voter beaucoup à un moment donné de l'histoire et que parfois, ils votent encore beaucoup aujourd'hui lors des présidentielles. Autrement dit, la vraie question, c'est celle de la participation de ces catégories-là. On devrait se poser la question, on se pose toujours la question de l'abstention, mais pourquoi s'abstiennent-ils ? Et en réalité, on devrait s'étonner qu'ils continuent de voter encore, parce qu'ils sont, leur position, par leur statut, par les faibles ressources dont ils disposent dans l'espace social, prédisposés à s'abstenir. Il y a ces prédispositions à s'abstenir, mais il y a aussi des facteurs environnementaux qui sont tout aussi importants et qui expliquent que ces prédispositions, elles s'actualisent ou non dans des comportements, dans des pratiques de participation ou d'abstention. Il y a des facteurs environnementaux hein, qui explique la participation ou l'abstention, et ces facteurs environnementaux jouent dans un sens inverse aujourd'hui de celui du passé. Disons. Alors, en effet, en 78, on votait beaucoup aux cosmonautes, même pour un deuxième tour avec un seul candidat. Pourquoi ? Parce que cosmonautes, comme dans beaucoup de quartiers populaires, alors en fonction des territoires, c'était le Parti communiste, dans d'autres, c'était la SFIO, dans d'autres, et à une époque un peu plus lointaine, c'était aussi l'Église hein, qui encadrait les populations. Mais dans ce quartier-là, les populations étaient encadrées, elles étaient encadrées par des associations, et notamment des associations partisanes politiques. Il y avait dans ces années-là une présence très forte de la politique au plan local, dans les quartiers de résidence, des milieux ouvriers notamment. Et de surcroît, cet encadrement politique n'était pas seulement observable dans les lieux de résidence, hein, des milieux populaires, mais ils étaient aussi observables, ils étaient doublés quelque part sur les lieux du travail ouvrier, où on avait une syndicalisation beaucoup plus importante, notamment, et donc des occasions beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui hein, de se politiser au travail. Là, pour le coup, il faudrait, et là, j'ai peut-être pas le temps de le faire, je ne me rends pas du tout compte du temps qui me reste.
10h10, donc vous allez avoir 10 minutes encore.
Bon, alors je renvoie donc aux travaux en fait sur le monde du travail, sur les évolutions, sur la déstructuration des mondes du travail ouvrier et les effets qu'ils peuvent emporter sur la participation politique. Il faut aller consulter tous les travaux réalisés par Maurice Pialou et Stéphane Beau, hein, notamment, qui montrent très bien pourquoi en fait la tertiarisation du monde ouvrier, la déstructuration des grandes unités de travail en petites unités où il est moins facile de syndiquer, où il est moins facile de discuter politique, etc., emporte un des effets très très forts sur la participation politique des catégories populaires. Mais ce qui est important de voir, c'est que à cette époque-là, où on s'intéressait déjà moins à la politique, on était déjà plus sceptique que dans d'autres catégories, les milieux populaires bénéficiaient d'un encadrement politique, à la fois là où ils travaillaient et à la fois là où ils résidaient. Aujourd'hui, alors, l'encadrement politique dans les quartiers, ça renvoie à une présence de militants de terrain qui étaient militants parce qu'ils étaient engagés dans des partis politiques, mais qui étaient surtout, et c'est ça l'important, des figures familières du quartier qui jouaient un rôle essentiel dans l'animation de la sphère publique locale, qui jouaient un rôle essentiel dans la sociabilité locale. C'étaient des militants. Au Cosmonaute, c'était les cellules du PC, donc c'était des militants du PC, mais c'était surtout des membres de l'Amicale des locataires, de l'Association de parents d'élèves, des fêtes de quartier. Ils jouaient un rôle absolument essentiel dans tout un tas de formes que prend hein, la vie collective localement. Et ils étaient appréciés, y compris de ceux qui ne partageaient pas du tout leur approche politique, leur point de vue politique. Et alors surtout, cette présence militante dans les quartiers, d'une part, expliquait que finalement, la politique n'apparaissait pas seulement sous la forme du professionnel lointain à la télévision ou à la radio qui n'est pas en capacité de comprendre hein, la vie des quartiers populaires, puisque la politique, c'était aussi les militants qu'on avait à côté de chez soi qui vivaient dans le quartier. Donc il y avait quelque part un lien organique hein, entre la politique et les milieux populaires. Et puis, cette, évidemment, la présence militante, le jour du vote, avait un effet d'entraînement très très fort. Quand vous avez des militants de quartier que vous connaissez parfaitement, finalement, par sa seule présence physique, il incarne le rappel à l'ordre civique et on n'a pas besoin d'aller chercher les gens chez eux pour qu'ils votent quand on a des militants dans un quartier. Donc, les quartiers aujourd'hui sont très, très, très éloignés de ce qu'ils étaient à l'époque. En gros, la plupart sont des déserts militants. Hein. La plupart des habitants des quartiers expliquent qu'ils n'ont jamais rencontré de militants politiques, ni à la sortie du lycée, ni surtout dans leur quartier. La politique apparaît aux habitants de ces quartiers uniquement sous la forme des professionnels dont ils doutent la capacité à changer leur vie, puisqu'ils ont vécu au cours des 30 dernières années, disons, une succession d'alternance politique qui n'a pas alimenté une alternative dans leur mode de vie, disons une amélioration dans leur mode de vie. Et donc, ils sont encore plus prêts, évidemment, que les générations précédentes à douter de la capacité du politique à améliorer leur vie, à changer quoi que ce soit. Ils sont très désenchantés. Mais ils ne sont plus, surtout ce qui est important de souligner là, c'est qu'ils ne sont plus entraînés comme par le passé, vers le vote, par des formes d'encadrement pérennes. D'où l'importance, dans les pratiques de participation aujourd'hui, d'éléments comme la cellule familiale. En réalité, le vote aujourd'hui n'est pas moins qu'hier collectif. La participation électorale fonctionne à l'entraînement, aujourd'hui comme hier. Simplement, l'entraînement hier était pris en charge essentiellement par des militants, par des partis politiques. Aujourd'hui, que les quartiers populaires sont des déserts militants, ce sont les groupes primaires qui jouent un rôle absolument essentiel dans l'explication de la participation. Alors là, les données que je vous donne, il faut que j'aille un peu vite, parce que je n'ai pas encore parlé de l'inscription, alors que c'est essentiel. Les données sont issues de la comparaison de trois quartiers. Le Cosmonaute, quartier populaire, le Marais, un quartier gentrifié, et les Aubes, c'est un quartier de classe moyenne de Montpellier. Ce que montre ce tableau, c'est que la conformité des comportements de participation à l'intérieur des familles est extrêmement forte. En moyenne, on a 90% de conformité dans les comportements de participation. Ça veut dire que dans 90% des cas, les membres d'une même famille s'abstiennent ou participent ensemble. Ils font la même chose. Et on a reconstitué, grâce aux listes d'émargement, qui sont vraiment des sources absolument merveilleuses, parce qu'on peut non seulement reconstituer des trajectoires individuelles, mais on peut reconstituer des trajectoires familiales de participation. On peut reconstituer la participation à l'intérieur des couples, non seulement mariés, mais aujourd'hui, quand on fait des enquêtes localisées, on peut reconstituer la participation, y compris des couples non mariés, ou en tout cas de personnes qui vivent sous le même toit, parce qu'on va comparer les listes électorales avec les noms qu'il y a sur les boîtes aux lettres des adresses correspondantes. Et grâce à ça, on sait qui habite avec qui. Et on reconstitue les foyers sur les listes d'émargement. Et c'est comme ça qu'on arrive à montrer que la famille joue un rôle absolument essentiel dans la participation électorale. C'est le cas pour les couples, mais la surprise, et alors là, pour le coup, il n'y a aucune différence entre les couples mariés et les autres. On s'est aperçu, grâce à cette méthode, qu'en réalité, les couples mariés, qu'on soit marié ou pas, ce n'était pas le mariage l'important, c'était le fait de vivre ensemble, c'est le fait de vivre sous le même toit qui est déterminant et pas le statut de mariage. Mais on s'est aperçu que cette conformité des comportements, elle était aussi très forte entre les parents et les enfants au sein des fratries, ce à quoi on ne s'attendait pas du tout. Donc, les familles jouent un rôle essentiel, le vote reste un comportement collectif, il y a des mécanismes d'entraînement qui expliquent en partie les très forts pourcentages de participation qu'on enregistre lors des élections présidentielles. Ce qui explique la très forte participation aux présidentielles de gens qui, par ailleurs, ne s'intéressent pas beaucoup à la politique et qui sont, par ailleurs, désenchantés et qui, donc, la plupart du temps, ne vont pas voter. Pourquoi ils votent de temps en temps aux présidentielles ? Eh bien, ils votent parce qu'ils sont entraînés. Ils ne sont plus entraînés par les partis, il n'y en a plus dans les quartiers. Mais ils sont entraînés par des proches qui sont un tout petit peu plus politisés qu'eux, qui sont affectés par la campagne. On a évidemment, à l'occasion des présidentielles, des campagnes de plus forte intensité, notamment à la télévision, donc qui touchent plus de monde. Et il suffit d'avoir dans son entourage quelqu'un d'un petit peu plus politisé que soi-même pour être entraîner vers le vote. Et il n'y a pas que la famille, il y a les groupes d'amis, les groupes de collègues, mais avec les listes d'émargement, on a la possibilité d'objectiver les comportements au sein des familles et ça marche très, très, très fort. Alors, on s'aperçoit en faisant ces enquêtes que la famille est plus importante pour expliquer la participation en milieu populaire que dans le quartier bourgeois, ce qui est tout à fait logique, puisque dans le quartier du Marais, la plupart des individus s'intéressent à la politique et qu'ils n'ont donc pas besoin d'être entraînés pour aller voter. Ils sont prédisposés à participer. Donc la famille joue moins un rôle de compensation. En revanche, la famille constitue un élément essentiel de la participation en milieu populaire, avec un effet que vous comprendrez tout de suite, qui est le fait que la déstructuration des familles, qui ne se fait pas, je crois, qui n'est pas plus importante en milieu populaire que dans d'autres catégories sociales, hein. Simplement, les effets politiques de cette déstructuration sont bien plus forts en milieu populaire que dans les autres catégories sociales, puisque dans les milieux populaires, pour aller voter, on a la plupart du temps besoin d'être entraîné. Or, ce qu'avaient montré des études américaines avant nous, et ce qu'on a montré avec Jean-Yves à partir de nos listes d'émargement dans ces trois quartiers, c'est que les parents divorcés, les parents qui vivent seuls avec leurs enfants ont perdu leur capacité d'entraînement et que ce sont des gens qui sont en quelque sorte, qui s'éloignent en quelque sorte de la civilisation électorale en prolongement de la déstructuration de leurs cellules familiales. Donc ces effets d'entraînement sont extrêmement importants aujourd'hui. Or, l'évolution de la cellule familiale explique qu'on ait moins d'éléments de compensation par l'entraînement au sein des familles aujourd'hui dans les quartiers populaires qu'hier, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de parents isolés, il y a plus de parents seuls, de mères seules notamment avec leurs enfants. Ce que l'on peut dire également, et je passe à l'inscription très très rapidement, c'est que les facteurs d'entraînement sont plus importants pour expliquer la participation, sont plus déterminants pour la participation des milieux populaires. Ça veut dire aussi que les campagnes électorales sont des facteurs explicatifs de la participation en milieu populaire. En gros, dans les milieux favorisés, où on est plus politisé, on parle davantage politique, quel que soit le contexte. On en parle un peu plus au moment des campagnes, mais l'entraînement lié à la campagne, lié notamment à la plus forte intensité de la politique à la télévision, est beaucoup plus déterminante dans la participation des milieux populaires que dans les autres milieux. Et je n'ai pas le temps de revenir sur ce que c'est qu'une campagne mobilisatrice, mais on pourra peut-être y revenir dans la discussion, parce que ça permet un petit peu d'analyser celle qui est en train de se dérouler en ce moment, pour savoir si elle va être suffisante pour entraîner les milieux populaires dans la participation ou pas. On a, pour cette question-là, l'élection de 2007 qui est très, très passionnante, puisqu'on a vu qu'en 2007, en gros, dans les milieux populaires, on a énormément voté pour les présidentielles et puis on s'est énormément abstenu pour les législatives. Donc on a l'exemple même pour les présidentielles de 2007 d'une campagne qui est capable de mobiliser des catégories qui s'intéressent peu à la politique et qui sont désenchantées. Donc on peut s'appuyer sur les caractéristiques de cette campagne pour essayer de comprendre ce que c'est qu'une campagne qui, en France, aujourd'hui, peut mobiliser les catégories populaires. Donc en gros, c'est une campagne qui tourne autour d'une offre électorale où au moins un des candidats réussit à incarner une promesse de changement, parce qu'il y a quand même un petit paradoxe dans ces affaires-là, mais on peut avoir dans les populations les plus désenchantées, qui croient plus en la politique, une envie de croire encore une dernière fois en la capacité d'une évolution. Et ça, c'est l'effet propre de la campagne. Quand on a un candidat qui parvient à incarner un changement, il est très mobilisateur, une promesse de changement, pardon, il est très mobilisateur parce qu'il mobilise en sa faveur et il mobilise contre lui. Il mobilise ceux qui ont peur du changement et il mobilise ceux qui sont favorables au changement. Le rôle des supports médiatiques est très important. Une campagne qui mobilise les milieux populaires, c'est notamment une campagne très intensive à la télévision. On sait aussi, même si c'est très timide encore en France, que le porte-à-porte, donc le contact physique avec la population, peut avoir des effets très importants dans la mobilisation des milieux populaires. Une campagne qui commence tôt, et ça me permet de parler de l'inscription, une campagne qui commence tôt est aussi une campagne susceptible d'entraîner les milieux populaires vers le vote. Pourquoi ? Parce qu'une campagne qui commence tôt, comme en 2007, c'est une campagne qui commence avant la clôture des listes électorales. Vous savez qu'en France, il faut s'inscrire le 31 décembre de l'année précédant les élections. On est un des pays où le temps qui sépare la clôture des listes de l'organisation du scrutin est le plus important. Quand on n'est pas politisé et que la campagne n'est pas commencée en décembre, on passe complètement à côté de l'étape de l'inscription. Parce que, tout simplement, quand la campagne n'a pas commencé, on ne parle pas politique dans les quartiers populaires. On est très, très éloigné encore en décembre de préoccupations de ce type-là, dans des milieux où, encore une fois, on est sceptique et moins intéressé par la politique. Donc là, quand la campagne commence tôt, qu'elle commence avant la clôture des listes, comme c'était le cas en 2007, elle a des vertus d'entraînement vers la mairie des populations qui ont le plus de chances de rester à l'écart s'il n'y a pas de campagne qui commence tôt. Alors, pourquoi c'est important cette phase de l'inscription ? Elle est importante parce qu'elle permet de réduire la non-inscription. On est d'accord ? Donc, la non-inscription, on a longtemps considéré, les chiffres officiels ont été très stables pendant très longtemps, qu'il y avait 10% de non-inscrits en France. Jusqu'au tournant des années 2000, on considérait que c'était 10% environ de non-inscrits en France. Avec Jean-Yves, quand on a commencé notre enquête au Cosmonaute, on s'est aperçu qu'en réalité, il y avait de très fortes inégalités socio-territoriales liées à l'inscription, et que dans un quartier comme les Cosmonautes, on avait 30% de non-inscrits, 30% de citoyens français en âge de voter qui n'étaient pas inscrits sur les listes électorales. Quand on a fait notre rapport pour le Centre d'analyse stratégique, on a travaillé sur une centaine de zones urbaines sensibles réparties sur tout le territoire, et on a obtenu des chiffres de même ordre, entre 25 et 30% de non-inscrits dans ces quartiers populaires. Alors, il se trouve que la campagne électorale qui a commencé à l'automne 2006, donc avant la clôture des listes pour les dernières présidentielles, a contribué de façon très importante à réduire l'écart entre la non-inscription dans ces quartiers-là et ce qu'elle est au niveau national. Non seulement on s'est beaucoup inscrit en France à l'occasion de cette campagne, mais on a en partie rattrapé un retard dans les quartiers populaires et notamment dans la génération des trentenaires qui ne bénéficient toujours pas aujourd'hui de l'inscription d'office. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes, l'année de leurs 18 ans, mais ils sont les seuls à en bénéficier, sont inscrits automatiquement sur les listes électorales. Ce qui, à terme, mène effectivement à réduire mécaniquement la non-inscription des jeunes de 18 ans. Donc, ces deux phénomènes, le rattrapage de la campagne présidentielle de 2007 et puis la procédure d'inscription d'office, expliquent qu'aujourd'hui, on ait des chiffres bien inférieurs à ceux des années 2000. Aujourd'hui, on estime que la non-inscription affecte 6-7% des citoyens français et qu'elle est, elle reste du double, mais qu'elle n'est que de 15%, c'est-à-dire moitié moins que ce qu'elle était dans les années 2000, dans les quartiers populaires. Mais la raison pour laquelle l'inscription, la phase de l'inscription est absolument déterminante, c'est aussi parce qu'elle pose un autre problème que celui de ceux qui restent à l'écart, qui ne peuvent pas s'inscrire, qui ne peuvent pas participer faute d'être inscrits. C'est le problème des gens qui sont inscrits dans un bureau de vote, dans un quartier où ils n'habitent plus. Après un déménagement, ils n'ont pas procédé à leur réinscription dans leur nouveau lieu d'habitation, et donc ils restent inscrits parfois de très longues années dans leur ancien bureau de vote. Or, cette malinscription, on s'est aperçu, d'abord on a cru que c'était propre au quartier populaire, on s'est aperçu qu'elle était très importante dans un quartier comme les Cosmonautes, on a trouvé environ 30% de malinscrits, 30% des gens qui étaient inscrits sur la liste électorale des Cosmonautes, et puis quand on a comparé la liste et qu'on a fait notre enquête de voisinage, d'abord on a comparé au nom sur les boîtes aux lettres, c'est notre truc, ça les boîtes aux lettres, mais après on est rentré chez les gens et on a demandé aux autres qui habitait là et qui était encore là, on s'est aperçu qu'il y avait 30% des gens qui étaient encore inscrits sur la liste qui en réalité n'y habitaient plus. Et on pensait qu'on allait trouver ce type de phénomène de façon plus nette dans les quartiers populaires. En réalité, en étendant notre dispositif d'enquête, on s'est aperçu qu'il y avait aussi beaucoup de malinscriptions dans le Marais, par exemple, et dans les quartiers pavillonnaires, dans les mêmes proportions. Donc, on estime, nous, aujourd'hui, qu'en France, il y aurait presque un tiers du corps électoral qui serait mal inscrit, qui ne serait pas inscrit au bon bureau de vote. Avec des effets, en revanche, qui sont bien plus forts sur la participation dans les quartiers populaires qu'ailleurs. Tout simplement pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est que quand on est politisé, le fait qu'on ait une distance à franchir pour aller voter ne constitue pas forcément un obstacle à la participation. En revanche, quand on est peu politisé, quand on est sceptique, quand on est désenchanté, la distance qu'il faut parcourir devient un obstacle rédhibitoire à la participation. Regardez. C'est ce qu'on a montré en comparant la participation sur les listes d'émargement, des habitants dont on est sûr qu'ils habitent aux Cosmonautes et la participation de ceux dont on est sûr qu'ils n'y habitent pas. Alors, par exemple, au présidentiel de 2002, au premier tour des présidentielles de 2002, les habitants dont on est sûr qu'ils n'habitent pas aux Cosmonautes ont participé à 15,2% lors du premier tour des présidentielles. Et il a fallu toute l'intensité de la mobilisation de l'entre-deux-tours pour obtenir que 48,5% de ceux qui n'habitaient pas dans la cité viennent voter. Autrement dit, la malinscription, alors que regardez, ceux qui ont une boîte aux lettres et dont on est sûr qu'ils habitent là par l'enquête de voisinage, ont voté au premier tour de 2002 à 81% et au deuxième tour de 2002 à 87%, c'est-à-dire des taux de participation très importants. Autrement dit, la malinscription dans les quartiers populaires est un des facteurs explicatifs de l'abstention. Elle explique très largement l'abstention lors des scrutins de haute intensité. Pour les élections présidentielles, même dans ces quartiers, on vote très largement et l'abstention constante, vous voyez, on a vu 12% d'abstention constante, c'est alimenté très très largement par la malinscription. Ce sont des gens qui habitent trop loin pour franchir la distance qui les sépare du bureau de vote. Et cette abstention, elle alimente aussi, bien sûr, l'abstention lors des scrutins de faible intensité, hein, même si là, elle n'est pas le seul facteur explicatif, puisque aux européennes, hein, par exemple, vous voyez, aux européennes, ceux qui n'habitent pas la cité ont voté à 4,3%, hein, vous imaginez. Mais il y a aussi une abstention aux européennes qui s'explique par la faible participation de ceux qui résident encore, hein, dans la cité, puisque ils ont participé à 65%. Mais alors, on a repris ces chiffres, on a refait, hein, nos vérifications à chaque élection. On s'est aperçu que ça marchait toujours, hein, pour 2007 et pour 2008, et que donc la malinscription était un des facteurs explicatifs de l'abstention en milieu populaire. Encore une fois, on trouve de la malinscription de façon très importante partout, mais ça ne produit pas les mêmes effets, puisque dans les milieux populaires, elle a besoin d'être compensée, hein, pour ne pas jouer ses effets, compensée par exemple, hein, par une campagne de culpabilisation des abstentionnistes, comme il y en a eu entre les deux tours 2007. Voilà, je pense que je vais arrêter là. C'est la raison pour laquelle je pense que la phase de l'inscription est à la fois très importante. Il faut absolument la prendre en compte quand on essaye de comprendre les mécanismes de la participation. Et la raison pour laquelle il est très important, pour avoir une campagne qui fasse voter les milieux les moins politisés, que cette campagne commence tôt et qu'elle réduise donc la malinscription, puisqu'on sait que plus les gens sont bien inscrits, plus ils ont des chances de voter. Et donc, un corps électoral mieux inscrit, c'est un corps électoral qui produit de la participation, notamment dans les catégories les moins prédisposées à participer. Merci.